Continuons notre réflexion ce matin sur les vertus. Vous avez comme titre l'acédie et ses remèdes, et vous voyez tout de suite que, au fond, par rapport à une passion qui est l'acédie, en face, il n'y a pas de vertu à proprement parler, mais des remèdes qui sont proposés. Je rappelle pour ceux qui prendront ces enseignements sur Internet que il s'agit d'extraits d'un livre de Jean-Claude Larchet, théologien orthodoxe, thérapeutique des maladies spirituelles, publié aux éditions du Cerf. Donc nous allons avoir deux parties dans notre réflexion. La première sur ce qu'est l'acédie. C'est peut-être un mot nouveau pour vous, qu'on n'entend pas très fréquemment. Et puis une deuxième partie sur les remèdes par rapport à l'acédie. L'acédie est voisine de la tristesse, à tel point que la tradition ascétique, dont Saint Grégoire le Grand est l'inspirateur en Occident, réunit ces deux passions en une seule, acédie et tristesse. La tradition ascétique orientale, cependant, distingue les deux. Il est difficile de donner une traduction à la fois simple et complète du mot « acédie », les mots paresse ou ennui, par lesquels il est souvent rendu, n'expriment qu'une partie de la réalité complexe qu'il désigne. L'acédie correspond certes à un certain état de paresse et à un état d'ennui, mais aussi de dégoût, d'aversion, de lassitude, et également d'abattement, de découragement, de langueur, de torpeur, de nonchalance, d'assoupissement, de somnolence, de pesanteur, du corps aussi bien que l'âme. L'acédie pouvant même pousser l'homme au sommeil sans qu'il soit réellement fatigué. Ça peut être pratique pour ceux qui ont des insomnies. Il y a dans l'acédie une insatisfaction vague et générale. L'homme, au moment où il est sous l'empire de cette passion, n'a plus de goût pour quoi que ce soit, trouve toute chose fade et insipide, n'attend plus rien de rien. L'acédie rend alors l'homme instable dans son âme et dans son corps, ses facultés deviennent inconstantes, son esprit incapable de se fixer va d'un objet à l'autre. Lorsqu'il est seul surtout, il ne supporte plus de demeurer dans le lieu où il se trouve. La passion le pousse à en sortir, à se déplacer, à aller en un ou divers autres endroits. Il se met parfois à errer, à vagabonder. D'une manière générale, il recherche à tout prix des contacts avec autrui. Ces contacts ne sont pas objectivement indispensables, mais portés par la passion, il en ressent le besoin et se trouve de bons prétextes pour les justifier. Il établit et entretient ainsi des relations souvent futiles qu'il alimente par de vains discours où il manifeste généralement une vaine curiosité. Il peut arriver que l'acédie inspire à celui qui y est sujet une aversion intense et permanente pour le lieu où il réside, lui donne des motifs pour en être mécontent, le porte à croire qu'il serait mieux ailleurs. Il est alors amené à désirer d'autres lieux où il pourra trouver plus facilement ce dont il a besoin. L'acédie peut aussi le porter à fuir ses activités, notamment son travail, dont elle le rend insatisfait, et elle l'amène alors à en rechercher d'autres, en lui faisant croire qu'elles seront plus intéressantes et le rendront plus heureux. Tous ces états qui se rattachent à l'acédie s'accompagnent d'inquiétude, d'anxiété, qui est en outre le dégoût, un caractère fondamental de cette passion. C'est particulièrement à ceux qui s'adonnent à la vie spirituelle que le démon de l'acédie s'attaque. Il cherche à les détourner des voies de l'esprit, à empêcher de plusieurs façons les activités qu'une telle vie implique, et particulièrement à nuire à la régularité et à la constance de la discipline ascétique qu'elle nécessite, à rompre le silence et l'immobilité qui la favorise. Évidemment, tout ce qui est dit ici a été observé en milieu de vie solitaire chez des moines, chez des personnes qui, d'une certaine façon, entrent volontairement dans la privation de toute satisfaction humaine, professionnelle, familiale, matérielle. Et il faut resituer cette perception de l'ascédie dans ce contexte-là. Saint Jean Climac la présente comme un relâchement de l'âme, un laisser-aller de l'esprit, la négligence de l'ascèse. Elle rend le spirituel mou et sans courage pour tous les travaux qu'il a à faire chez lui, l'empêche d'y demeurer ou de s'y appliquer. Sous l'influence de cette passion, son esprit devient oisif et incapable de toute activité spirituelle. Il devient indifférent à toute l'œuvre de Dieu, cesse de désirer les biens futurs, va même jusqu'à déprécier les biens spirituels. Tous les pères voient dans l'ascédie un des principaux obstacles à la prière. S'il est vrai que l'ascédie affecte tout spécialement ceux qui s'efforcent de se soumettre à une discipline spirituelle régulière, réduisent pour cette raison au strict nécessaire leurs activités extérieures et leurs déplacements et recherchent au maximum le silence et la solitude, celle-ci cependant ne laisse pas en paix ceux qui vivent en dehors de toute discipline ou même de toute activité spirituelle. Pour eux, c'est sous d'autres formes qu'elle s'en prend à eux. Elle prend la forme d'un sentiment souvent obscur et confus d'insatisfaction, de dégoût, d'ennui, de lassitude vis-à-vis d'eux-mêmes, de l'existence, de leur entourage, du lieu où ils résident, de leur travail ou même de n'importe quelle activité. Ils sont encore affectés d'une inquiétude sans raison, d'une anxiété généralisée ou d'une angoisse épisodique ou continuelle. Généralement, ils se trouvent pris corrélativement d'un état de torpeur, d'engourdissement psychique et physique, d'une fatigue générale et constante éprouvée sans raison particulière, d'une somnolence périodique ou permanente de l'âme et du corps. Souvent, parallèlement, et pour conjurer en quelque sorte ces états pénibles, l'ascédie les pousse à de multiples activités et déplacements non indispensables, à des fréquentations sans utilité, et à tout ce par quoi il leur semble pouvoir échapper à l'angoisse et à l'ennui, à fuir la solitude et à combler l'insatisfaction qu'ils ressentent. Alors qu'ils veulent et croient souvent ainsi se satisfaire et se trouver, ils ne font en réalité que se détourner d'eux-mêmes et de leur devoir être spirituel, de leur nature et de leur destin véritable, et par là même de toute satisfaction pleine et entière. C'est tout de même intéressant de regarder ça, parce que je suis à peu près persuadé que nous avons tous en tête le visage de quelqu'un que nous connaissons et qui correspond un peu à cette description, ou que nous-mêmes, on a pu traverser des périodes comme celle-là, où quelque part, on perçoit de façon un peu subliminale qu'on est en train de fuir quelque chose peut-être nous met mal à l'aise ou nous coûte de trop, et qu'on est un peu en état de refus, peut-être, à travers cette fuite. Ce qui distingue essentiellement l'ascédie de la tristesse, c'est que rien de précis ne la motive, que l'esprit est troublé sans raison, comme le dit Jean Cassien, moine à Marseille. Mais qu'elle n'ait pas de motif ne signifie pas qu'elle n'ait pas de cause. Elle suppose, pour pouvoir agir, un terrain favorable. Le fait d'être attaché au plaisir et d'être sous l'emprise de la tristesse en constitue une forme dont saint Athanasios souligne l'importance. La description précédente des troubles qui caractérisent l'ascédie nous permet de comprendre que les pères la considèrent comme une maladie de l'âme. Ces nombreux effets pathologiques ne font qu'en confirmer cette façon de la considérer. Le principal de ces effets est un obscurcissement généralisé de l'âme. L'ascédie rend l'esprit obscur et aveugle et couvre de ténèbres l'âme tout entière. L'âme devient alors incapable d'appréhender les vérités essentielles. Elle est vraiment assoupie à l'égard de toute contemplation des vertus et de toute vision des sens spirituels. L'âme qui a été blessée par ce trouble, constate saint Jean Cassien. La conséquence la plus grave est que l'homme est, par cette passion, détourné et maintenu éloigné de la connaissance de Dieu. Aussi, devant l'ampleur de ces effets, les pères affirment-ils que l'ascédie est la plus pesante, la plus accablante de toutes les passions. La plus grave des huit, qu'il n'est pas de passion pire qu'elle. Saint Isaac dit qu'elle fait goûter l'enfer à l'âme. La pathologie de l'ascédie ne peut être considérée comme celle des passions précédemment étudiées, comme constituée par la perversion de l'usage d'une faculté particulière. Saint Maxime fait remarquer qu'elle les implique toutes. Toutes les autres passions affectent dans l'âme, soit la partie irascible, soit la concupiscible, soit même la partie rationnelle. L'ascédie, elle, s'en prend à toutes les facultés de l'âme. Mais d'autre part, elle n'est pas constituée par leur usage contre nature, n'ayant dans la nature aucun fondement positif. C'est comme si elle sortait de nulle part, finalement. Elle est en quelque sorte l'engourdissement et l'inactivation d'une part et la distraction d'autre part de toutes les facultés qui contribuent à la vie spirituelle de l'homme. C'est un bug. Saint Thalassios exprime bien cet aspect dans sa dualité quand il la définit comme la négligence de l'âme. Elle pourrait, dans une certaine mesure, être considérée comme constituée par l'absence du zèle spirituel donné par l'Esprit, tant au premier homme qu'à l'homme renouvelé en Christ, pour qu'ils accomplissent avec ferveur leur tâche spirituelle. Alors, ça peut sembler un peu noir comme tableau, mais en même temps, ça a été parfaitement identifié par les moines et les pères de l'Église. Donc, dans un deuxième temps, nous allons parler des remèdes à l'ascédie. Nous avons vu, en décrivant la passion d'ascédie, qu'elle a pour particularité de s'en prendre à toutes les facultés de l'âme et de mettre en branle presque toutes les passions, et qu'elle signifie en conséquence la mort de toutes les vertus. Aussi, à la différence des autres passions, l'ascédie n'est-elle pas susceptible d'être guérie et remplacée par une vertu qui lui serait spécifiquement opposée? La thérapeutique suppose que la maladie ait été mise au jour, ait été repérée comme telle, car cette passion a pour caractéristique d'être immotivée et d'être en conséquence souvent inconsciente ou incompréhensible. Cela d'autant plus que l'un de ses principaux effets est d'aveugler l'esprit et de rendre obscure l'âme tout entière. C'est pourquoi saint Jean Cassien écrit encore que celui qui veut combattre comme il faut doit s'empresser d'extirper cette maladie du secret de son âme. Et l'abbé Poemen note de son côté que si l'homme la reconnaît pour ce qu'elle est, alors il obtient le repos. La passion se caractérisant pour une part chez le solitaire surtout par le besoin de se déplacer, d'entrer en contact avec autrui, il s'agit premièrement de reconnaître que les justifications de ce besoin que l'homme se représente alors ne sont que de vains prétextes dictés par la passion elle-même. Cela l'aidera à ne pas céder à ce besoin. Lorsque l'ascédie se manifeste sous la forme d'une tendance à l'assoupissement, il convient également de lui résister en s'efforçant de ne pas céder à l'engourdissement ou au sommeil. Dans tous les cas, remarque saint Jean Cassien, l'expérience prouve qu'on n'échappe pas à la tentation d'ascédie en fuyant, mais qu'il faut la surmonter en lui résistant. Céder à l'ascédie serait une mauvaise solution qui ne ferait qu'accroître la maladie. De même que la cause de l'ascédie est à l'intérieur de l'homme et non dans sa condition de solitaire, de même le principe de la guérison de cette maladie est à rechercher dans le rapport de l'homme avec lui-même et non dans ses rapports avec autrui. L'impression de pouvoir recevoir une aide des autres étant dans la grande majorité des cas fallacieuse. Ça, c'est difficile. Saint Isaac le Syrien écrit à ce sujet: « La santé et la guérison de l'homme, dont l'âme centenaire, lui vient de l'ézikia, la prière du cœur. C'est là sa consolation. Nul ne reçoit jamais dans le commerce des hommes la lumière de la consolation, ni n'est jamais guéri par les relations qu'il entretient avec eux. L'ascédie ne le quitte un moment que pour l'assaillir ensuite avec plus de violence. Bienheureux celui qui supporte de telles tentations en restant dans sa cellule. Cependant, la résistance à la passion ne donne jamais de fruits immédiatement. La victoire sur l'ascédie suppose presque toujours un combat long et assidu. Aussi, la thérapeutique exige-t-elle avant tout que l'on fasse preuve de patience et de persévérance. La vertu de patience apparaît même comme l'un des principaux remèdes à cette passion. « Par votre patience, vous sauverez vos âmes », dit Jésus en Saint-Luc. L'espérance apparaît comme un autre remède fondamental qui doit être joint à la patience. Un homme plein d'espérance est le meurtrier de l'ascédie qu'il repousse armé de ce glaive, enseigne saint Jean Climac. Et Évagre conseille: lorsque nous nous heurtons au démon de l'ascédie, semons en nous de bons espoirs. Prononçons avec David cette incantation: « Pourquoi es-tu triste, ô mon âme, et pourquoi me troubles-tu? Espère en Dieu, car je le louerai, lui le salut de ma face et mon Dieu. » On pourrait ajouter à ce niveau-là la louange, l'importance de louer Dieu pour sortir précisément de cette ascédie qui nous envahit. Un troisième remède essentiel est le repentir, le deuil et la compunction. Si l'homme se souvient de ses péchés, Dieu est son aide en tout, et il ne souffre pas de l'ascédie, enseigne un ancien. Que ce tyran soit enchaîné par le souvenir de nos péchés, conseille de son côté saint Jean Climac, qui dit encore: celui qui s'afflige sur lui-même ne connaît pas l'ascédie. Un autre remède important est la mémoire de la mort. Pratique ascétique fondamentale qui consiste pour l'homme à se souvenir en permanence qu'il est mortel et que sa mort peut à chaque instant survenir. À cette mémoire de la mort se rattache le conseil, souvent formulé par les pères, de vivre chaque jour comme s'il était le dernier, conseil qu'il a en vue moins de préparer l'homme à bien mourir que de l'aider à bien vivre. La mémoire de la mort a en effet pour fonction principale d'aider l'homme à ne pas gaspiller le temps précieux pour le salut, à racheter le temps, comme dit l'apôtre dans la lettre aux Éphésiens, et à vivre ainsi chaque moment avec le maximum d'intensité spirituelle. Un apophtègme rapporte: on demanda à un ancien: « Pourquoi n'es-tu jamais découragé ?» Et il répondit: « Parce que chaque jour, je m'attends à mourir. » Parmi les remèdes prescrits par les pères, il faut encore citer le travail manuel. Il peut en effet aider l'homme à éviter l'ennui, l'instabilité, la torpeur et la somnolence, qui sont pour une part constitutives de cette passion. Il peut contribuer à établir ou à maintenir l'assiduité, la continuité de présence, d'effort et d'attention que suppose la vie spirituelle et que l'ascédie cherche à rompre. Surtout, il s'oppose directement à l'oisiveté, qui est l'une des formes principales que peut prendre l'ascédie et qui est une source de maux innombrables. Travaillez de vos mains comme nous vous l'avons ordonné, dit Paul. Enfin, la prière constitue le plus fondamental de tous les remèdes de la Siddhi, car l'homme ne peut être totalement délivré de cette passion que par la grâce de Dieu, et ne peut recevoir celle-ci qu'en la demandant par la prière. Sans ce dernier remède, tous les autres n'ont qu'une efficacité partielle. C'est de lui, au contraire, qu'ils tirent toute leur force. C'est pourquoi le combat contre la passion, la résistance qu'on lui oppose, la patience dont on fait preuve, l'espérance qu'on manifeste, le deuil et les larmes, les mémoires de la mort, le travail manuel doivent être accompagnés de la prière qui les fonde en Dieu et fait qu'ils ne sont plus des moyens simplement humains. Une difficulté tient cependant au fait que la Siddhi pousse l'homme à abandonner la prière et l'empêche d'y recourir. Il est alors essentiel qu'il résiste de toutes ses forces à cette tentation et garde la prière s'il ne l'a pas encore abandonnée ou la reprenne s'il l'a déjà perdue. Nous échapperons à cette impression de tiédeur et de lâcheté si nous assignons à notre esprit des limites bien étroites et portons nos regards sur le seul souvenir de Dieu. Ainsi seulement, en effet, l'esprit reviendra rapidement à sa ferveur et pourra se soustraire à cette dissipation déraisonnable. La victoire sur la Siddhi laisse à l'homme un certain répit dans le combat spirituel, parce que la Siddhi contient d'une certaine façon en elle toutes les passions. Aucune passion n'apparaît immédiatement après qu'elle ait été détruite. Ce démon n'est suivi immédiatement d'aucun autre. Un état paisible lui succède dans l'âme après la lutte, note Évagre. Outre ce repos, l'effet principal de la victoire sur cette passion est une joie ineffable qui remplit l'âme.